Dialogue entre Congolais, à la présentation Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir. Procès sur l'assassinat du journaliste Serge Maïché, 3 condamnés à mort et 2 acquittés. Comme vous le savez, le verdict de la cour militaire de Bukavu est tombé mercredi dernier. La cour a infligé une peine de mort à 3 présumés assassins de Serge Maïché. Les 3 condamnés sont tous des civils. Quant aux 2 amis de Serge Maïché, à savoir Freddy Bistimwa et Masakila Muzusangabu, ils ont été acquittés. Votre confrère Serge Maïché, journaliste de Radio Okapi, rédaction de Bukavu, a été assassiné, je vous rappelle, le 13 juin de l'année dernière. Le procès sur son assassinat remonte donc à près d'une année. Comment accueille-t-on le verdict de ce procès? Quelles leçons en tirer? C'est le thème au centre de cette émission Dialogue entre Congolais. Quelques réactions parmi les nombreuses que vous nous avez envoyées. Bravo à la justice du Sud Kivu, s'exclame Roua Lamé, Casso Kossi de Beni au Nord Kivu. Toutes les juridictions, affirme-t-il, devraient s'en servir, se servir comme exemple pour mettre fin à l'impunité. Je ne suis pas satisfait par ce jugement parce que selon moi, je ne connais pas les vrais commanditaires et aussi la cause de la mort de Serge Maïché. C'est une origine inconnue qui nous a envoyé ce message. Même réaction de la part de François Makiambe, lui nous écrit depuis Bukavu au Sud Kivu. Nous avons comme invité dans cette émission Maître Charles Tsubaka, il est avocat des condamnés, Alfred Maïcha, ministre provincial de la justice au Sud Kivu, et Edo Lambaya, président de l'ONG Journaliste en Danger.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Je vous signale d'abord que nous avions aussi invité le ministre de la Justice du gouvernement central, Maître Mutombo Bakafoua, s'est excusé. Procès sur l'assassinat du journaliste Serge Maïché, je vous l'ai dit, 3 condamnés à mort et 2 acquittés. Comment accueille-t-on le verdict de ce procès? Je vous rappelle que la cour militaire de Bukavu a rendu ce verdict hier, mercredi 21 mai. 3 prévenus, tous des civils, dont Freddy Bissimwa et Masakila Ruizangabo, sont condamnés à mort, comme au premier degré. Alain Moulimbi et Serge Mouima, les 2 présumés commanditaires, sont acquittés. La cour a aussi prononcé d'autres peines à l'encontre d'autres prévenus dans cette affaire. Notre confrère Michel Tirimouami, qui a suivi ce procès, nous fait revivre l'ambiance de ce jour du verdict.
Pour le prévenu Serge Mouima Amin, pour le prévenu Alain Moulimbi Osama, la cour déclare non coupable d'association de malfaiteurs liés à l'assassinat de Serge Mouima.
Des cris de joie ont éclaté dans la salle d'audience de la cour militaire quand la sentence est tombée pour l'acquittement des 2 amis de Serge Maïché et témoins de sa mort. Les amis et la famille ont exprimé cette satisfaction en embrassant les 2 amis à l'issue du procès. Écoutez, Maître Jean-Claude Moubalama, leur avocat.
La cour a bien analysé l'infraction d'association de malfaiteurs qui a été libellée contre mes clients et a démontré que cette infraction n'existait pas. Donc, à ce point de vue, il n'y a aucun doute. C'est une évidence que Serge et Alain ne sont ni de près ni de loin impliqués dans ces dossiers.
Du côté des condamnés à mort, la défense a exprimé son insatisfaction. Maître Tsubaka veut amener cette affaire en cassation au motif que toutes les pistes n'ont pas été explorées et que le doute persiste.
La cour n'a jamais approuvé en quoi elle se déclarerait vraiment suffisamment éclairée dans cette affaire. Non seulement la balistique n'a pas été faite, mais aussi la piste militaire n'a pas été examinée et même dans sa motivation, elle n'a pas vraiment montré sur quoi elle pouvait se fonder pour condamner les prévenus. Nous croyons qu'on souhaite une décision de la Cour, mais entre-temps, nous allons user de toutes les voies de recours qui nous sont encore ouvertes pour faire casser cet arrêt.
Du côté des observateurs de ce procès, certains ont exprimé leur satisfaction de voir enfin un verdict dans cette affaire. Mais les voix sont encore nombreuses qui déplorent des irrégularités dans ce procès et constatent que le doute persiste au sujet des vrais mobiles d'assassinat de journalistes. Dernier coup de théâtre de ce procès, un 3e condamné, Bissimwa Sekitu Patient, prévenu dont il n'avait jamais été question jusque-là, est condamné à mort pour association de malfaiteurs, même s'il n'a jamais mis les pieds sur les lieux du crime. Bukavu, Didier Bagalwa, Radio Kapi.
Vous avez reconnu, c'était bien Dieudonné Bagaloa. Mais pour ceux qui n'ont pas bien suivi ce procès, voici un bref rappel des faits.
Le 13 juin 2007, dans la soirée, le journaliste de Radio Okapi, Serge Maïché, était abattu dans l'avenue Sayo, en pleine ville de Bukavu. Le procès est commencé immédiatement, connaissant de multiples rebondissements. Le 29 juin, on arrête Freddy Bissimoa et Mastaki Larouezangabo en le présentant désormais comme les principaux suspects de cette affaire. Très vite, ils vont impliquer Alain Moulimbi et Serge Moulima, les deux amis de Serge présents à ses côtés le soir du drame. Accusés d'être les commanditaires du meurtre, ils seront condamnés à mort fin août 2007, comme leurs deux soi-disant complices à l'issue d'un procès au premier degré, dont les conclusions et le déroulement ont été très commentés et critiqués par de nombreux observateurs nationaux et internationaux. Coup de théâtre le 8 septembre 2007, dans une lettre écrite de leur prison, Mastakila et Freddy reviennent sur leurs aveux innocents et ceux qu'ils avaient contribué à faire condamner. Le 20 février dernier, après plusieurs reports, le procès en appel commence avec quatre accusés principaux qui désormais plaident non coupables. À quelques jours du premier anniversaire de la disparition de Serge Maïché, l'appel se termine donc aujourd'hui avec deux acquittements et trois condamnations à mort, mais toujours dans une ambiance électrique. Ce procès a en effet de nouveau été très suivi et critiqué par les organisations de défense des droits humains qui n'ont pas cessé d'en relever et dénoncer les irrégularités. Dieudonné Bagaloa, Bukavu, Radio Okapi.
Merci beaucoup, Dieudonné Bagaloa. Nous commençons par vous, Maître Charles Tchoubaka. Vous êtes avocat des condamnés. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, Maître, comment vous avez accueilli ce verdict?
J'ai accueilli le verdict avec un esprit de non-satisfaction. Il est tout à fait normal que ce soit ainsi parce que nous avons indiqué certaines pistes à la Cour, mais la Cour, en fait, n'a pas voulu suivre le sur cette voie-là.
Voilà. Et vous parlez de quelles pistes, par exemple?
Nous avons, en fait, notamment indiqué la piste militaire, que je crois, en tout cas, être la meilleure piste, et celle qui amènerait la Cour à la vérité. Mais cette piste n'a jamais été explorée, n'a jamais été exploitée. Nous avons demandé à la Cour de procéder à l'expertise balistique des armes qu'on nous a présentées à la Cour, mais la Cour ne nous a pas suivi sur cette voie là-bas. Et donc, nous avons aussi déploré beaucoup d'irrégularités qui étaient en fait commises par le premier juge. Mais la Cour, au lieu en fait de réformer tout cela, en fait se retrouver dans les mêmes erreurs. Alors, on se dit, mais en fin de compte, pourquoi on peut, sur des bases non solides, condamner quand même des personnes à peine capitale? Donc, je ne peux qu'accueillir cela par un esprit de non-satisfaction.
Merci, Maître. Donc, pour vous, c'est une condamnation sur des bases non solides. Donc, vous dites que vous n'êtes pas satisfait de ce verdict. Dona Mbaya, vous êtes président de l'ONG Journaliste en Danger GED. Bonsoir, Dona.
Bonsoir.
Et comment vous avez accueilli? Satisfait ou pas satisfait comme Maître Charles Tchoubaka?
Bon, de prime abord, nous avons été satisfaits par le fait que deux innocents ont été finalement acquittés, les deux amis de Serge, qui n'auraient jamais dû être arrêtés, et à qui on a volé un peu plus de 10 mois de leur vie. Et dans 10 mois, la vie de quelqu'un peut changer, et je pense qu'ils porteront ça longtemps toute leur vie, parce qu'on leur a volé 10 mois de leur vie pour rien, dès le départ. Nous avions dit que les seuls aveux des présumés assassins n'étaient pas suffisants pour condamner deux témoins oculaires et amis de longue date de Serge à la peine capitale, alors qu'il n'y avait rien d'autre en dehors des seules paroles des présumés assassins. Nous pensions déjà à l'époque que c'était assez fragile, c'était assez simpliste et assez dégueulasse même de pouvoir condamner à mort des gens sur base des seuls aveux sans qu'il y ait d'éléments matériels. D'autant plus que dans l'instruction, il y a eu beaucoup de contradictions
et il y a eu beaucoup de témoins à décharge par rapport aux deux années de Serge, qui ont démontré que beaucoup le récit qui avait été fait par les présumés assassins ne correspondait à aucune réalité. Quand on parle de cette rencontre dans le fameux bar Kizo, quelque chose comme ça, les gens de la sécurité dans le bar, même les vendeurs là-bas, reconnaissent tous n'avoir jamais vu ces gens là-bas, qui n'ont jamais vendu une bouteille de whisky. Et quand on parle de Alain qui serait parti déposer les présumés assassins à l'hôtel Tanganyika et revenir pour s'occuper avec le médecin, pour s'occuper de Serge, le conduire à l'hôpital, c'est invraisemblable parce que tous les témoignages ont indiqué que Alain et Serge étaient là. Ils sont allés à l'hôpital jusqu'au moment où on leur a annoncé la nouvelle fatidique.
Voilà, donc satisfaction pour l'acquittement des deux
amis. Oui, mais pour le reste, nous rejoignons un peu la position de l'avocat des condamnés, parce que, vous savez, la peine capitale, c'est une condamnation extrême. On ne peut pas, on n'a pas le droit de se tromper. Or, quand on analyse et qu'on lit, on voit un peu comment le procès s'est passé, on analyse tout ce qui s'est passé, on se dit qu'il n'y a pas d'éléments matériel irréfutable qui puisse permettre à la Cour de prononcer la sentence qui a été prononcée. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, nous on peut dire qu'il n'y a pas de certitude que les gens qui ont été condamnés soient réellement
ceux qui ont tué
Serge, du moins. On nous a pas apporté des éléments irréfutables, il n'y a pas eu d'expertise balistique, il n'y a pas eu d'autopsie pour qu'on puisse voir si les balles qui étaient dans le corps ont été réellement tirées de l'arme qui a été trouvée. Et vous savez, on ne peut pas se contenter en plein 21e siècle d'une expertise empirique fondée sur la vue et sur l'odorat. C'est malheureux.
Merci, Donna Mbaya. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Journaliste en Danger. Nous avons en ligne aussi Alfred Maïcha. Vous êtes ministre provincial de la Justice au Sud Kivu. Bonsoir, monsieur le ministre.
Et bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, merci d'accepter, parce que le ministre de la Justice au niveau central, lui, s'est excusé. Au moins, vous êtes là. Alors, comment vous avez accueilli ce verdict, parce que vous venez de suivre là du côté des condamnés, ils ont dit qu'ils ont un sentiment de non-satisfaction, et puis du côté de journalistes en danger, parce qu'on rappelle que Serge Maïcha était bien un journaliste, Donna Mbaya, il dit qu'il est satisfait pour l'acquittement de deux amis de Serge Maïcha qui, pour lui, ont été arrêtés pour rien, 10 mois pour rien au cachot. Et comment vous, en tant que ministre provincial de la Justice, vous accueillez ce verdict finalement?
Et effectivement, en tant que ministre provincial de la Justice, nous n'avons pas la possibilité de dire si nous ou non nous sommes satisfaits par ce verdict. Parce que c'est le journaliste que dans notre pays, la justice est rendue désormais au nom du peuple congolais. Et les arrêts, les jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du chef de l'État. Et que donc, il y a un principe de droit qui estime que ce qui est jugé est présumé vérité. Nous pensons, à notre avis, satisfait ou non satisfait, c'est pas la radio capture, il faut venir le déclarer. Non, écoutez, lorsqu'on n'est pas satisfait par une décision de justice, n'est pas la législation congolaise prévoit toutes les voies de recours et les instances auprès desquelles on peut s'adresser.
Oui.
Mais tout de même, pour être ministre de la Justice, dans notre république démocratique du Congo, qui serait un état de droit, mais en tout cas à l'étape où les institutions démocratiques sont en train de prendre fonction, nous pouvons tout de même nous satisfaire d'une chose, que l'aspérité à la lutte contre l'impunité soit en train de se matérialiser progressivement. Il s'agit là d'un des 5 chargés de l'État qui est en train de pouvoir se matérialiser, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce que beaucoup de voix se sont levées lorsque le jugement avait été rendu au premier degré pour demander que la juridiction d'appel puisse statuer à nouveau et pouvoir éventuellement corriger les erreurs du premier juge.
Monsieur le ministre.
Eh bien, comme responsable en province, nous avons été heureux que cela ait été fait tout de même.
Oui, monsieur le ministre.
Il n'existe jamais une décision qui soit à l'abri des critiques. C'est pour ça même que le législateur a prévu le deuxième degré de juridiction.
Mais, monsieur le ministre.
Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a une critique adressé à cet arrêt,
donc, on peut passer au deuxième degré.
Droit, il n'a qu'à, n'est-ce pas, adopter les voies de recours constitutionnelles.
Oui, monsieur le ministre. Oui,
la République démocratique du Congo.
Oui, monsieur le ministre provincial de la justice, au sud de Kivu, Alfred Maïcha, vous dites que vous êtes satisfait du fait que, selon vous, c'est la lutte contre l'impunité qui se matérialise. Mais est-ce que vous êtes à l'aise lorsque, monsieur le ministre, des critiques qui viennent aussi bien des condamnés comme de l'ONG Journaliste en Danger? Il y a eu beaucoup d'autres réactions, on va les voir tout à l'heure, hein. Je peux vous citer comme ça Héritier de la Justice, c'est une ONG locale, vous avez les Nations Unies avec Alain Doss et même Madame Louise Arbour, tout le monde hein, va dans le même sens pour dénoncer les irrégularités. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'avoir condamné des innocents?
Non, écoutez, condamner les innocents ou pas, je pense que la question est même mal posée. C'est pas au ministre de la Justice qu'il faut poser des questions du genre. Il y a, n'est-ce pas, le principe de l'indépendance de la magistrature, mais également l'état de droit suppose aussi la confiance que nous devons adresser à nos organes de justice. Et n'est-ce pas, toute la procédure est prévue pour quiconque n'est pas satisfait par une décision de justice. Je disais, la procédure est prévue pour que celui-ci puisse disposer de sa possibilité, de la possibilité de s'adresser à une instance juridictionnelle supérieure à celle qui a rendu la sentence. C'est vrai que nous voulons la liberté d'expression, on peut s'exprimer à toutes les chaînes de radio comme l'on veut, mais j'estime que la solution, c'est beaucoup plus en exerçant les voies de recours qui restent ouvertes à la disposition de quiconque est satisfait ou pas. Je ne suis pas en train de vouloir vous dire que la décision rendue est parfaite. Je voudrais même que de par le monde, un seul juge nous dise qu'il est en mesure de rendre une décision parfaite, n'est-ce pas, parce que la justice parfaite est celle de l'homme, est celle de Dieu, la justice de l'homme n'est qu'à peu près.
Mais
tout de même, l'ordre institutionnel que nous avons ne nous donne pas d'autre solution que de s'adresser aux organes de justice. Le premier juge a rendu la sentence, on a estimé qu'il y avait des erreurs.
Vous l'avez déjà dit.
On est allé au degré d'appel. Maintenant, il y a encore des critiques, c'est tout à fait normal. Celui qui a des critiques, c'est arrêt. Il saisit la Cour suprême de justice.
Oui, monsieur le ministre.
Celui-là rendra la décision définitive.
Oui, monsieur le ministre, je vais peut-être y aller rapidement avec ces autres réactions, avec l'ONG Héritier de la Justice de Bukavu, se dit satisfaite de l'acquittement des deux amis de Serge Maïché. Le procès n'a toutefois pas étanché la soif de vérité sur le mobile de l'assassinat. Ça, c'est la déclaration de Roger Mouchouba. Il est chargé des questions juridiques de cette même ONG, donc, qui était contacté par notre confrère Georges Kamoudjova pour lui. Il n'y a donc pas de victoire dans le verdict rendu hier mercredi à Bukavu. Parmi les autres réactions, je vous ai parlé d'Alain Doss. Alain Doss, il est représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC, et Mme Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui dénonce la condamnation à mort de 3 civils et les nombreuses irrégularités qui ont entaché ce procès, notamment le refus de la Cour militaire d'explorer d'autres pistes crédibles de l'assassinat et solliciter une expertise balistique de l'arme du crime, comme l'a dit tout à l'heure Donna Mbaya, ainsi que des violations graves des droits de la défense, du principe d'égalité des moyens. La haut-commissaire se dit aussi particulièrement préoccupée par les intimidations et menaces répétées à l'encontre des accusés, avocats de la défense et observateurs indépendants au cours du procès. Pour sa part, le chef de la MONUC réitère donc l'attachement de la mission onusienne à la recherche de toute vérité. Les deux personnalités se réjouissent, néanmoins de l'acquittement des deux amis de Serge Maïché condamnés à mort en première instance, bien que leur responsabilité n'ait pas été rétablie. Pour revenir à ce que vous avez dit, hein, que voilà, la lutte contre l'impunité se matérialise, en un mot s'il vous plaît, monsieur le ministre, parce qu'il y a d'autres invités dans cette émission, vous êtes vraiment sûr, vous,
d'avoir démarré la lutte contre l'impunité lorsque les condamnés, il y a beaucoup de critiques et de réserves sur les condamnés.
Je vous informe que vous pourriez aller plus loin que ça, vous ne trouverez pas une décision rendue par une justice humaine qui ne soit pas critiquable. C'est la même la raison d'être des instances de recours. Si on savait qu'il y a des juges qui rendaient des décisions définitivement et parfaites, on ne pourrait pas prévoir qu'on ait un recours. Donc nous pensons que même le voyage de 1000 km commence par un pas. Le fait pour nos instances d'avoir reçu les dossiers, d'avoir traité à leur manière, d'avoir rendu la première décision et la deuxième, nous disons c'est déjà quelque chose, mais pour tout bien entendu, nous disons celui qui a, n'est-ce pas, des critiques à porter contre
il n'a qu'à le
faire. Exercer toutes les voies ouvertes quant à fait.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Maître Charles Tchoubaka, rapidement, là, votre réaction. Maître Charles Tchoubaka?
Oui,
Je sais bien que vous êtes avocat des condamnés. Oui, comment vous réagissez après avoir suivi le ministre provincial de la justice? Il est parti. On a donné un baïa en attendant. Donné un baïa, vous êtes là, vous avez suivi le ministre provincial de la justice. Qu'est-ce que vous pouvez dire après sa réponse?
Bon, je vais dire beaucoup de choses avec tout le respect que je dois à monsieur le ministre provincial, mais moi je crois que on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de justice parfaite, qu'il n'y a pas d'arrêt parfait pour ne pas reconnaître que il y a eu des problèmes dans ce procès. Je ne pense pas que la lutte contre l'impunité peut être passée par pertes et profits à travers n'importe quel procès. Je crois que l'objectif d'un procès, c'est d'abord d'établir la vérité et ensuite de sanctionner les coupables. Dans le cas d'espèce, je ne pense pas qu'il y a eu plus de lumière hier ou aujourd'hui que le 13 juin 2007, parce qu'il y a encore des questions qui sont sans réponse. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je vais rappeler à monsieur le ministre qu'il y a plusieurs manières de garantir l'impunité. Soit on ne fait rien, soit on fait un procès bâclé. Et dans le cas d'espèce, je crois que même si on va en cassation, et si on ne remet pas en cause les prémices, les conclusions de la cassation risquent d'être les mêmes. Parce que le mal se trouve déjà dans l'enquête pénale qui a été mal conduite. L'enquête pénale a été mal conduite. Je vais vous dire, en plein 21e siècle, comment vous pouvez, dans une histoire de meurtre, ne pas avoir une expertise balistique? Comment ne pas avoir fait des examens des empreintes digitales? Aujourd'hui, on fait même des examens d'ADN, sous les habits, les cheveux, tout ça. Il y a plusieurs techniques scientifiques aujourd'hui pour arriver à la vérité. Alors, moi, je suis en train de me dire que au lieu de se contenter d'un procès qui n'a pas, ce procès n'a pas été que imparfait, ce procès a été déjà mal engagé dès le départ. Avez-vous déjà vu un crime se réaliser 24 heures après vous avez droit à un procès public alors qu'on n'a pas pris quelqu'un en flagrant? C'était déjà des problèmes. Ça veut dire les prémices étaient déjà mal posées, de sorte que les conclusions ne peuvent être que mauvaises. Alors, nous pensons que la justice congolaise, tout le monde le dit, même le chef de l'État, je l'ai déjà entendu, pas se plaindre de la justice congolaise est à inventer et à moderniser.
Donnambaye. Alors, Maître Charles Tchoubaka, avocat des condamnés, on vous a retrouvé, le signal Guy Maté, donc vous êtes à nouveau en ligne.
D'accord.
Vous avez suivi le ministre provincial. En un mot, vous dites quoi après ces arguments? Parce que Donnambaye a dit que la justice congolaise, il faut la moderniser.
Oui, la réponse que je t'ai donnée au ministre, il faudrait suivre ce procès pour voir les irrégularités qu'il y avait dedans. Et il faudrait, au fait, avoir participé peut-être au début jusqu'à la fin du procès pour s'en rendre compte. En un mot, vous savez, Serge Maïssa a été assassiné le 13 juin 2007. Au lendemain même, parce qu'à partir de minuit, on avait procédé à un bouclage et on avait quand même arrêté deux militaires. On avait saisi deux armes qui, apparemment, d'après l'expertise, avait tiré, ou venait de tirer. Et Serge Maïssé avait été assassiné à 40 mètres d'un campement militaire. Mais la première chose qui se prend, ces militaires ne sont pas intervenus, ils ne sont arrivés que plus tard, je crois, une affaire de 20 minutes plus tard, alors qu'il y a eu traitement de balles. Deux, on retrouve une arme qui sent les odeurs de douille, signe qu'elle venait au fait de tirer. Trois, cette arme, une de ces armes-là était au fait sectionnée. Même au fait qu'on voulait dissimuler les traces.
Les charges Choubaka, vous voulez dire quoi exactement?
Bon, je veux dire quelque part quoi. Je veux dire que j'ai été indigné par le fait que la cour militaire a abandonné cette piste.
Ouais,
alors que le premier juge lui-même reconnaissait qu'il y avait des erreurs et que donc il y avait des zones d'ombre qui planaient. Mais bon, le second juge non plus n'a pas corrigé cela. Il est resté dans les mêmes erreurs.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir attaquer? Nous sommes en train d'attaquer un jugement. Et nous voudrions en fait que le second juge puisse au moins en tenir les conséquences qui s'imposaient. Et alors, à ce moment-là, pouvait procéder à un examen plus raffiné et arriver quand même à traiter les véritables assassins de Serge Maïssi. Et là, aujourd'hui, il y a un verdict qui a été rendu. Mais est-ce que ce verdict vraiment nous rassure, d'autant plus que ces zones d'ombre persistent toujours et que nous ne savons pas pour le motif de l'assassin de Serge Maïssi?
Merci, maître. On va poursuivre avec la deuxième partie de cette émission pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Je rappelle, nous parlons du procès sur l'assassinat du journaliste Serge Maïssé. Trois condamnés à mort et deux acquittés, c'est ce verdict. Quelles leçons finalement tirées de ce procès? On en parle dans la deuxième partie de cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Procès sur l'assassinat du journaliste Serge Maïssé, trois condamnés à mort et deux acquittés. Quelles leçons tirées de ce procès un jour après le délibéré rendu au second degré par la Cour militaire de Bukavu? Dans ce procès, l'observatoire de l'ONG Protection internationale, qui a suivi de près le déroulement de ce procès, relève des irrégularités. Elle appelle le pouvoir public à œuvrer plus activement dans la lutte contre l'impunité. Sophie Roudil demande aussi aux autorités congolaises de s'impliquer davantage dans la protection des défenseurs des droits de l'homme en général et des observateurs nationaux en particulier. Sa réaction a été recueillie par Jean Cassani.
Nous n'avons cessé d'expliquer que de nombreuses irrégularités avaient entaché la procédure de première instance comme la procédure d'appel, avec des violations des droits de la défense, un certain nombre de pistes qui n'ont pas été suffisamment explorées, et surtout un problème concernant la preuve sur les armes qui sont présentées, qui ont été saisies, et en particulier celle qui est présentée comme l'arme du crime. L'autopsie et l'expertise logistique n'ont pas été effectuées, alors même que la MONUC a proposé un appui logistique pour que ce soit fait à l'étranger avec des garanties d'indépendance. Nous le regrettons. Donc, le doute persiste dans ce dossier. Il est clair que la vérité n'a pas pu émerger.
Vous avez suivi encore là le doute qui persiste. Monsieur le ministre, provincial de la justice au sud qui vous, Alfred Maïssa, est-ce qu'il faut s'en tenir à ce verdict malgré toutes ces critiques sur les irrégularités, sur la piste militaire qui a été évitée, comme l'a dit maître Charles Choubaka?
Monsieur le journaliste, je voudrais dire que nous n'avons pas l'intention de faire l'avocat ni des juges, encore que les juges n'en avaient peut-être pas besoin, ni des lignes de parti. Si nous pouvons avoir la chance de nous faire comprendre, nous disons ceci. L'arrêt a été rendu avec tout ce qui était comporté comme erreur, ce qui est évident en droit, l'erreur judiciaire est presque évidente. Aujourd'hui, il s'agit de l'arrêt d'ailleurs qui intervient dans un dossier très sensible et très délicat. Donc, s'il y a une opinion contraire, et c'est évident qu'il y en a, parce que vous le suivez d'ailleurs de toutes les couches, nous comme responsables, notre rôle n'est pas de mettre l'État congolais dans la rue. Il y a un minimum de respectabilité des institutions et notamment des organes judiciaires que nous devons garantir, n'en déplaise les critiques qu'on peut leur adresser aujourd'hui.
Monsieur le ministre,
disons, la meilleure façon de se pourvoir contre une décision judiciaire, c'est de saisir la juridiction supérieure.
Oui,
mais... Le premier juge a rendu un jugement qui a été critiqué. Le deuxième peut avoir corrigé les erreurs du premier juge sans les avoir terminées. Peut-être, il est question éventuellement que comme le débat continue à s'élever, l'on aille auprès du juge suprême qui, lui, pourrait avoir la possibilité d'appréhender toute la question dans toute sa quintessence et nous donner un arrêt éventuellement définitif.
Oui, mais pourquoi vous qualifiez vous-même ce dossier de très sensible et très délicat?
Oui, sensible et délicat parce que c'est un dossier qui traite des vies humaines. Hein, nous avons perdu un journaliste très apprécié, notre frère Serge Maheche, et ce sont également des vies humaines qui étaient jusqu'à présent, qui sont d'ailleurs en danger, si on peut le dire comme tel. Et donc, nous pensons que ce n'est pas un procès qu'on peut faire en toute vitesse ou en toute aise. C'est plutôt un dossier qui exige un certain discernement, une analyse tout à fait, en tout cas posée, pour que le juge rende une décision en toute responsabilité. Et bien entendu, nous disons qu'il n'était pas question de s'attendre à une décision qui ne puisse pas être en mesure d'être critiquée. Ça, c'est demander trop. Nous disons, il est tout à fait évident qu'à critiquer, il y en est, et c'est ça n'est pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un minimum de respect que nous devons aux institutions de la République et surtout les organes judiciaires qui ne nous permet pas éventuellement de mettre la rue l'État dans la rue, mais plutôt d'exercer les voies de droit qui sont à la portée de tout citoyen congolais. Donc, je ne contredis ni l'avocat de la Défense, ni le président de l'ONG Défense des droits de l'homme au studio, mais nous disons presque la même chose en des termes différents. Il y a critiqué l'arrêt, c'est normal, mais où est-ce qu'il faut porter les critiques? À mon avis, c'est vrai, la liberté d'expression a permis qu'on en parle au niveau de la droite maintenant, mais la réponse, nous l'aurons auprès de l'organe judiciaire hiérarchiquement supérieur.
Merci.
C'est d'ailleurs dans d'autres pays, là où le juge a tranché, généralement les débats devraient éventuellement aller dans le sens de chercher la vérité auprès de l'organe supérieur plutôt que de jeter l'État dans la rue.
Merci. Maître Charles Tchoubaka, puisque vous êtes avocat des condamnés, finalement, après toutes ces irrégularités que vous dénoncez, que beaucoup d'ONG de droits de l'homme, aussi bien congolaises qu'internationales, dénoncent, on a parlé même des Nations Unies, et, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous avons, je peux vous citer, même sur cette liste qui est longue, hein, des réactions depuis Lausanne en Suisse, la Fondation Hirondelle, elle, qui est partenaire de la MONUC au sein de Radio Okapi, regrette cette issue judiciaire. Elle appelle à poursuivre la recherche de la vérité et à mener une enquête sérieuse pour identifier les responsables de ce crime. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous comptez faire?
Merci. Tout à fait, je crois que, je l'ai déjà dit, je crois mes pouvoirs, pas moi, mais mes clients vont se pouvoir en principe en cassation pour que les différentes irrégularités qui ont été observées au cours de ce procès puissent être corrigées. J'espère que la Cour suprême pourra nous suivre par cette voie là-bas, parce que, en principe, on ne peut pas laisser quand même de personnes être condamnées innocemment comme ça, parce que moi, je suis toujours convaincu qu'elles sont des innocents. Parce qu'imaginez-vous, monsieur le journaliste, comment peut-il que moi j'ai demandé que nous puissions entendre au moins ces militaires-là qui habitaient les campements ou les lieux du crime, mais leur commandant du camp, leur commandant qui est venu dire que ces militaires sont portés disparus il y a déjà un mois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que des militaires, parce qu'il y a un dossier, puissent être portés disparus, tout ça marche comme ça. Comment se fait-il que monsieur le ministère qui s'appelait Bokungu Bokonde puisse ne pas dire alors qu'il est aussi prévenu dans cette affaire? pour qu'il vienne se défendre. Comment se fait-il qu'un autre militaire du nom de Katouzele puisse aussi disparaître comme ça, et que tous ces gens ne puissent plus revenir et que la Cour ne cherche pas à trouver la vérité là-dessus?
Maître Charles Toubaka, donc si on vous comprend, vous voulez aller en cassation, notamment au niveau de la Cour suprême de justice, c'est pour essayer de relancer la piste militaire, si on vous comprend.
Oui, c'est d'abord arriver à faire casser un arrêt et l'amener à une autre juridiction qui pourra, en fait, j'espère, examiner maintenant toutes les pistes-là qui ont été laissées pour compte.
Merci. Jean Mbaya, président de l'ONG, journaliste en droit de l'UGED.
Bon, je crois que ce que Maître a dit, il a parfaitement raison, et je pense que quand le ministre dit qu'on ne peut pas jeter l'État dans la rue et qu'il faut aller devant la juridiction supérieure, il a parfaitement raison, mais je ne pense pas que le fait, en tant que citoyen, de critiquer une décision de justice signifie jeter l'État dans la rue. Non, je parle à l'époque où l'État était inattaquable, où l'État ne pouvait pas être critiqué, est révolu. Aujourd'hui, nous avons le droit de dire et de dénoncer des choses qui ne marchent pas. Et dans le cas d'espèce, ce procès restera à jamais dans les annales de la justice, comme je peux dire, me permet de dire comme un déni de justice. Parce qu'il faut voir la manière, vous venez d'entendre l'avocat, des choses impensables qui se sont déroulées. On peut même revenir la manière dont les deux amis de Serge ont été condamnés. Mais c'est scandaleux. Je crois qu'on prendrait ce cas et on l'amènerait à la faculté de droit de n'importe quelle université de la République démocratique du Congo, et les étudiants n'arriveraient jamais à la conclusion à laquelle le premier juge est arrivé. Vous vous rendez compte? Et on ne peut pas se comporter de cette manière-là impunément. Impunément. Il y a eu ces allégations de subornation des accusés. Il y a le ministre,
le juge,
de subordination, les présumés assassins ont accusé des magistrats de les avoir manipulés, conditionnés et tout et tout. Mais nous avons quand même été surpris de constater qu'il n'y a pas eu en interne une action pour vérifier les allégations de subordination. Et ça, c'est quand même scandaleux. Et moi, je ne peux pas comprendre que quand la justice prend des décisions qui arrangent, qu'on dise oui, il faut respecter la justice, elle est indépendante et tout, mais quand cette même justice essaie de s'assumer, d'assurer son indépendance de temps en temps par le courage de certains juges, ce jour-là, on dit oui, la justice ne vaut rien et tout. Non, ça ne va pas. Ce qui est sûr, ce qui est réel dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'il faut réinventer la justice. Et je pense que cette tâche, ce n'est pas simplement l'État, ce n'est pas simplement les hommes politiques. Je crois que les juges, les magistrats et consorts, ils ont une lourde responsabilité là-dedans. Ils ont vraiment une lourde responsabilité, parce qu'on ne peut pas, sous prétexte de manque de moyens, sous prétexte de salaires bas, dire que le blanc devient noir et que le noir devient blanc, simplement parce qu'on a faim. Il faut mettre fin à ce genre de choses. Et on ne peut pas, vous savez, la justice, c'est le ciment d'une démocratie. La démocratie, c'est comme une maison. Si le ciment ne tient pas, si le ciment est trafiqué, cette maison-là, elle peut être aussi jolie qu'on le pense, elle va s'écrouler un jour. Je ne voudrais pas que notre démocratie, que nous sommes en train de bâtir péniblement, puisse s'écrouler un jour parce qu'on n'a pas de justice.
Merci, Donald. Il y a une réaction qui nous arrive, elle vient de Aaron de Kolozi au Katanga. Elle est en fait une question, je dirais une réaction qui est beaucoup plus dirigée vers le ministre provincial de la justice du Sud Kivu. On parlera, je cite, du début de la lutte contre l'impunité en RDC lorsqu'on verra un ministre ou un général devant la barre pour détournement de fonds publics. Monsieur le ministre provincial de la justice du Sud Kivu, Alfred Maïcha, qu'est-ce que vous répondez?
Oui, je n'ai pas l'intention de ne pas accéder, n'est-ce pas, au sentiment de tout Congolais de voir les organes, notamment judiciaires, évoluer et fonctionner effectivement. La lutte contre l'impunité, nous avons dit que c'est un chantier, c'est-à-dire que il faut commencer par quelque part. Même, je l'ai dit, un voyage de 1000 kilomètres ne commence pas par 10 pas tout d'un coup, c'est généralement un pas.
Et vous êtes sûr d'avoir bien commencé?
Et l'impunité, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, n'est pas une invention actuelle. C'est des réalités que nous avons vécues depuis plus de 40 ans. Ne demandez pas aux gens de les revendiquer en une seconde, en une année, en deux. C'est vrai que les efforts sont encore, les attentes sont encore beaucoup plus multiples. Mais là où nous en sommes, à partir des actions plus invisibles, parce qu'aujourd'hui, nous critiquons la réponse que nous l'avons. C'est-à-dire qu'il y a un début de commencement. Les améliorations sont évidentes, nous les faisons et ça exige la participation de nous tous, les animateurs des institutions, les animateurs des organisations des droits de l'homme, les avocats et le peuple dans son entièreté.
Merci beaucoup,
monsieur. Mais nous disions que la respectabilité de la République démocratique du Congo en tant qu'État, au milieu des autres États et nations, nous exige en tant que responsables d'autorité d'avoir une certaine manière, tout en critiquant les choses là où il le faut, mais pas de relever la tête de l'État sans pouvoir jeter son honneur dans la rue, ce que je disais, mais pour le reste, les inquiétudes de tous les citoyens congolais sont partagées par nous tous.
Oui, monsieur le ministre, on va prendre les réactions des auditeurs avec Kelly Côté. Bonsoir, Kelly.
Bonsoir, Jean-Claude. Dungo de Butembo, Nord Kivu, pense que la prise de position des différentes ONG de défense des droits de l'homme prouve que derrière ce verdict, la Cour cache la vérité. Pour Nico Chitenge de Ndesha Okasi Occidental, l'arrêt du tribunal n'est pas convaincant et se demande quel espoir et quelle conscience un pauvre et simple citoyen peut avoir dans notre justice ou nos magistrats. Serafin Majali Wadouzira Ousoutkivu estime quant à lui que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur la mort des journalistes Serge Maéché, Frangike Bapoua Mwamba, parce que le pouvoir judiciaire est pris en otage par le pouvoir exécutif et surtout que ces assassinats sont politiques, conclut cet auditeur. Enfin, José Kalonda, député provincial de l'Équateur, aimerait savoir où sont passés les deux militaires présumés assassins de Serge Maéché.
Merci beaucoup. Kevin Coutet, je reviens vers vous. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour que vous puissiez y répondre, mais vous allez y aller très rapidement. D'abord avec vous, Maître Charles Chubaka. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Serafin Majali Wadouzira qui pense que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur la mort des journalistes Serge Maïché, Frangike et Bapoua Mwamba, parce que selon lui, le pouvoir judiciaire est pris en otage par le pouvoir exécutif et que ces assassinats sont politiques.
Je crois qu'effectivement, c'est aussi mon point de vue. Hein. On ne saura jamais la vérité sur l'assassinat de Serge Maïché, d'autant plus qu'on s'est écarté de la piste qui pouvait au fait donner la vérité. Et je me dis que malheureusement, quand on dit des malades de la peste d'Albert Camus, on dit que selon que vous serez plus propre, la sentence sera noire ou blanc. Eh bien, ça fait bien que on a su détenir la vérité dans cette affaire, parce merci. Que tout simplement, on a d'abord pris les amis de Serge Maïché,
et
on dit comme ils sont relaxés. Bon, je crois que l'affaire risque malheureusement de finir parce qu'il n'y aura plus de grands suivis.
Merci beaucoup. Merci maître. Oui. Je suis désolé parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est juste une minute à chacun. Et Donald Mbaya, président de la EGED, juste sur cette même réaction sur laquelle on va terminer.
Bon, ce sont des choses qu'on connaîtra la vérité. Ce sont des choses qu'on entend depuis de longues dates. Moi, je dis que il n'y a rien de caché sous le soleil. C'est la Bible qui le dit. Même si la justice refuse de trouver la vérité, elle apparaîtra un jour. Il y a eu des procès sur Mobutu où des gens ont été condamnés et aujourd'hui la vérité est apparue.
Voilà. On va terminer par vous, Alfred Maïcha, ministre provincial de la justice au Sud Kivu. Est-ce que on connaîtra un jour la vérité sur ces procès, particulièrement Serge Maïcha, dont nous parlons dans cette émission?
Les espoirs sont permis, monsieur le journaliste. Il est question d'une prise de conscience collective et individuelle au niveau de la République démocratique du Congo face au défi à devoir relever, notamment celui d'une justice seule et parfaite.
Merci.
Et accorder du temps en saisissant les instances que nous voulons.
Merci beaucoup.
Plus disposées à éclairer l'opinion.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est avec vous que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, Guy Maté à la réalisation et Kelly Kouté à la préparation. Hydrogénien Pala, Claude Tianza et Jean-Claude Toumakamanga. Nous vous disons merci pour votre fidélité à Radio Capice.